France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La Commission européenne valide l'accord avec le Mercosur avec des mesures pour protéger les produits européens sensibles. Mesures insuffisantes, répondent les agriculteurs français. Page spéciale dans un instant avec Fabien Cazot et Camille Magnard. Le gouvernement s'attaque à l'aide médicale d'État en réduisant les soins proposés aux étrangers sans papier. La gauche dénonce un appel du pied au Rassemblement national 5 jours avant le vote de confiance qui menace François Bayrou. Le chantier de Notre-Dame de Paris est une réussite, salue la Cour des comptes dans un rapport très positif. Les délais et le budget prévus ont été respectés, les explications de Benoît Grossin dans ce journal. En Israël, nouvelle manifestation aujourd'hui pour réclamer un cessez-le-feu et la libération des otages. Le gouvernement Netanyahou apparaît de plus en plus divisé sur la conduite de la guerre à Gaza. Nous verrons cela avec notre correspondant Thibault Lefèvre. Malgré les critiques, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur a franchi une étape cruciale. Aujourd'hui, la Commission européenne a validé cet accord commercial avec 4 pays latino-américains, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Bruxelles appelle désormais les 27 États membres à approuver rapidement ce texte qui doit faciliter les échanges commerciaux de part et d'autre de l'Atlantique. L'exercice s'annonce délicat face à la fronde de plusieurs pays européens emmenés par la France. On retrouve à Bruxelles Fabien Cazot, bonsoir.
Bonsoir.
Fabien, pour Amadou et Paris, l'accord validé par la Commission prévoit des garanties robustes pour les agriculteurs.
Oui, une clause de sauvegarde qui prévoit d'instaurer un contrôle en temps réel dès que l'accord commencera à s'appliquer sur les volumes de marchandises importées du Mercosur ainsi que sur l'évolution de leurs prix. Un contrôle en temps réel qui, en cas de dérapage constaté, permettra de suspendre momentanément les importations dans la filière concernée, d'enquêter sur d'éventuelles distorsions de concurrence et de rééquilibrer la situation. Un mécanisme robuste salue effectivement à Bruxelles les diplomates qui ont été à la manœuvre cet été pour négocier ce protocole additionnel, salué par les États membres comme l'Italie qui se félicite de l'inclusion d'un paquet de garanties supplémentaires pour la protection des agriculteurs européens. Le gouvernement français se réjouit pour sa part que l'Union européenne ait entendu les réticences françaises, tout en expliquant avoir besoin de temps pour analyser cette clause de sauvegarde introduite aujourd'hui.
Quelles sont les premières réactions au Parlement européen, Fabien ?
Eh bien, sont au contraire très réservés, hein, tout bord politique confondu, car il reste, selon beaucoup d'eurodéputés, des ondes d'ombre sur cette clause de sauvegarde. Quand sera-t-elle activée? Selon quels critères précis? Elle vise à répondre aux inquiétudes sur le niveau des volumes d'importation, mais pas à celles sur les écarts de normes de production agricole entre l'Union européenne et le Mercosur. Enfin, il y a aussi le risque que le Mercosur invoque d'autres clauses du traité qui lui permettraient d'obtenir des compensations en cas de restrictions à l'export. Le sujet s'annonce explosif politiquement dans les prochaines semaines. L'accord sera soumis à la validation des États membres et du Parlement européen d'ici la fin de l'année. Afin d'apaiser les inquiétudes, la Commission européenne souligne pour sa part que l'accord, dans sa nouvelle version, sera plus protecteur pour les filières européennes qui pourront par ailleurs exporter plus facilement en direction du Mercosur.
Fabien Cazot, correspondant de France Culture à Bruxelles, merci. En première ligne contre cet accord, il y a bien sûr les syndicats agricoles français, inquiets de voir la production sud-américaine concurrencer la leur. Fabien Cazot nous l'expliquait à l'instant, la Commission européenne a tenté de les rassurer avec ses quelques mesures de protection. Camille Magnard, les syndicats agricoles jugent ces garanties insuffisantes.
L'opposition à l'accord UE-Mercosur reste très ferme, en particulier à la Confédération paysanne, syndicat agricole, où la porte-parole Fanny Metra rejette les soi-disant garanties mises en avant par la Commission européenne ce matin.
Mettre en place un fonds de compensation à hauteur de 6,3 milliards pluriannuels, c'est vraiment montrer qu'on est OK pour qu'il y ait des effets délétères massifs sur les filières. On prévoit déjà, avant que l'accord soit signé, avant que les conséquences délétères soient vraiment visibles sur le terrain, on prévoit déjà un fonds de compensation.
Et pourtant, la Confédération paysanne craint que le gouvernement français n'approuve in fine cet accord renégocié, alors qu'Emmanuel Macron avait promis au dernier salon de l'agriculture qu'il ferait tout pour que l'accord ne suive pas son chemin.
En plus, ils ont annoncé du coup le splitting. Là, ils vont séparer l'accord commercial des autres accords. Et qui dit splitting dit passage en force, en fait. C'est un espèce de déni démocratique, parce que du coup, en faisant ça, on empêche en fait le droit de veto.
très remontée, on l'entend, la Confédération paysanne appelle ses adhérents à rejoindre le mouvement Bloquons tout le 10 septembre. Mais ce n'est pas le cas de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, qui restent toutefois très critiques contre l'accord Mercosur et vont organiser des manifestations cet automne. La FNSEA dit examiner les voies juridiques possibles pour contester l'accord, déplorant notamment des contrôles inexistants sur les produits qui sont importés depuis l'Amérique du Sud, alors que ces produits peuvent contenir des pesticides interdits en Europe.
Explication signée Camille Magnard. Un mois après la censure partielle de la loi Duplon qui prévoyait la réintroduction de l'acétamipride, les associations environnementales ont enregistré un nouveau succès aujourd'hui. La Cour administrative d'appel de Paris ordonne à l'État de revoir ses procédures d'autorisation des pesticides dans un délai de 24 mois. Il s'agit de l'affaire dite Justice pour le vivant. L'une des associations requérantes, Polynis, salue une victoire historique. Véronique Robérot, bonsoir.
Bonsoir.
La justice avait déjà donné raison aux défenseurs de l'environnement dans une première décision sur les pesticides. Mais cette fois, Véronique, la Cour administrative d'appel va encore plus loin.
Oui, c'est un jugement qui va dans le sens des 2 millions de signataires contre la loi Duplon et d'une première décision de justice en 2023. Il y a 2 ans, la justice condamnait la France pour sa responsabilité dans la contamination des écosystèmes, sol et eau, par les pesticides. Cette fois, la Cour administrative d'appel de Paris reconnaît à nouveau cette contamination généralisée, mais ordonne aussi à l'État d'actualiser les protocoles d'évaluation et d'autorisation sur le marché des pesticides. Cette fois, l'État est au pied du mur, explique Émilie un cap de pont de l'association Notre Affaire à Tous.
Par rapport à il y a 2 ans, il confirme la responsabilité de l'État dans la contamination généralisée aux pesticides, mais la Cour va encore plus loin que la décision de première instance en obligeant la refonte des protocoles d'évaluation et d'autorisation des pesticides. C'est en quelque sorte une révolution juridique et scientifique. La Cour ordonne sous 24 mois à l'État de revoir ses protocoles, de les réformer, et ensuite de sous 6 mois d'établir un calendrier d'action pour revoir les AMM, les autorisations de mise sur le marché les plus problématiques. On suppute que certains produits seront donc interdits. On parlait donc des néonicotinoïdes il n'y a pas si longtemps dans la loi Duplon. Donc là, pour l'instant, leur retour a été censuré par le Conseil constitutionnel. Mais si jamais cela revenait par une nouvelle loi, ils devraient repasser par cette case des tests actualisés. Et donc, on soupçonne très fortement qu'il ne passerait pas ces nouveaux tests.
On ne sait pas si l'État envisage de se pourvoir en cassation. Les ONG espèrent que cette décision de la justice française ouvrira la porte à des actions similaires dans d'autres pays européens.
Véronique Robérotte, spécialiste environnement à la rédaction de France Culture. S'agit-il d'une nouvelle manœuvre désespérée de François Bayrou pour sauver son bail à Matignon? À 5 jours du périlleux vote de confiance réclamé par le Premier ministre à l'Assemblée, le gouvernement remet sur la table la question de l'AME, l'aide médicale d'État. Dans 2 projets de décret transmis pour avis à la Caisse nationale d'assurance maladie, il propose notamment de revoir le panier de soins pris en charge par cette aide destinée aux étrangers sans papier. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
La gauche y voit une main tendue à l'extrême droite. Le gouvernement s'en défend.
D'abord au gouvernement, on insiste, le dispositif lui-même n'est pas mis en cause. On parle d'ajustement, de suivi des recommandations du rapport remis sur le sujet il y a 2 ans. Pas de manœuvre politique, ce qui est dans ces textes, c'était prévu, attendu, selon la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
La question de l'AME avait déjà été abordée dans le cadre de l'adoption du budget 2025 au début de l'année. Donc il s'agit là d'aller au bout des engagements qui avaient été pris avec l'ensemble des partis politiques. Je sais que ça paraît coïncident, mais en réalité, c'est le fruit du travail lancé depuis l'adoption du budget et les engagements pris par le Premier ministre.
C'en est la suite logique, confirme un parlementaire de droite investi sur la question. Mais le calendrier interroge. Cela ressemble, après la main tendue à la gauche sur les jours fériés, à un appel du pied de l'autre côté, à l'extrême droite, même si le RN se dit pas dupe, et au LR aussi, voire surtout, Sophie Prima.
Il y a une intention véritable d'ouvrir le champ des possibles à l'ensemble des parlementaires qui souhaitent discuter et qui apportent des propositions. Donc tout est ouvert et nous écoutons les propositions des uns et des autres.
De là à croire que cette modification du panier de soins de l'AME, encore hypothétique, sera de nature à changer des votes au RN ou chez LR, il y a un pas qu'un conseiller à Matignon ne franchit pas. On n'en est plus, jure-t-il, à essayer de convaincre. On est déjà mort.
Merci Rosalie Lafarge. En Conseil des ministres ce matin, Emmanuel Macron a appelé le gouvernement à faire acte de mobilisation et de pédagogie autour de François Bayrou. Hier, le chef de l'État avait demandé aux chefs des partis de la coalition gouvernementale de travailler avec les socialistes pour élargir le socle commun. Dans cette fin de quinquennat difficile, Emmanuel Macron peut tout de même se targuer d'avoir tenu sa promesse de rouvrir Notre-Dame de Paris 5 ans après l'incendie du 15 avril 2019. La Cour des comptes publie aujourd'hui un rapport très positif sur le chantier de restauration de la cathédrale. Il s'agit là du 3e rapport des sages de la rue Cambon sur Notre-Dame depuis l'incendie. Benoît Grossin, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous.
Ce rapport bilan commente à la fois l'achèvement du chantier, financé par quelques 340 000 donateurs de 150 pays et sa réouverture au public le 8 décembre dernier, dans les délais donc.
Un rapport « feel good » pour reprendre les mots prononcés par le premier président de la Cour des comptes lors de sa présentation ce matin. Mission accomplie, une réussite. Pierre Moscovici a salué le tour de force de parvenir en 5 ans à la restauration de la cathédrale en respectant le calendrier mais aussi le budget sans aucun surcoût grâce à l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris qui a, je cite, fait preuve de son efficacité. Un bilan d'autant plus positif que le solde disponible, 140 millions d'euros sur les 843 millions d'euros collectés avec l'accord des grands donateurs, permet depuis la réouverture d'engager une nouvelle phase de travaux pour des parties extérieures jugées nécessaires bien avant l'incendie, à commencer par le chevet, les arcs-boutants et le presbytère pour un montant de 51 millions d'euros. Et même si ce chantier de Notre-Dame est exceptionnel par l'engagement aussi des équipes, la Cour des comptes estime que le ministère de la Culture pourrait en tirer des leçons en termes de pilotage et de gestion financière pour d'autres grands chantiers de monuments historiques.
Ce rapport feel good de Benoît se conclut toutefois par une série de recommandations.
La Cour des comptes estime urgent, notamment en s'adressant encore au ministère de la Culture, de définir une doctrine sur la conservation des vestiges archéologiques, prenant davantage en compte leur intérêt culturel, patrimonial et scientifique, et d'intervenir d'abord pour une réduction des coûts de stockage, plus de 500 000 euros par an du produit des fouilles et des débris de l'incendie en engageant une politique de tri et de déclassement dès cette année. Il s'agit aussi d'arbitrer sans tarder sur le projet suspendu d'implantation d'un musée destiné à abriter des pièces emblématiques de Notre-Dame, comme les sculptures du jubé médiéval que les fouilles ont permis de mettre au jour, le futur musée de l'œuvre qui va réclamer entre 114 et 130 millions d'euros d'investissement au sein de l'Hôtel Dieu. Compte tenu de la raréfaction des ressources financières et de l'ensemble des murs d'investissement auxquels doivent faire face déjà le ministère de la Culture et les autres ministères concernés du gouvernement, la Cour des comptes estime que cela ne peut passer que par une diversification des contributeurs et par le concours, en particulier, du mécénat.
Benoît Grossin, merci. Depuis sa réouverture au public il y a 9 mois, Notre-Dame de Paris a déjà accueilli plus de 7 millions de visiteurs. C'est bien sûr l'un des monuments les plus visités de la capitale. On l'évoquait tout à l'heure, dans une semaine exactement, le 10 septembre doit débuter le mouvement Bloquons Tout. Mobilisation née sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait de leader clairement identifié. Mais une partie de la gauche et plusieurs syndicats ont décidé de rejoindre ce mouvement. Les autorités s'attendent à une participation d'au moins 100 000 personnes dans tout le pays, avec un risque de sabotage et de blocage de sites stratégiques selon une note du renseignement territorial que vous avez pu consulter, David Di Giacomo.
Oui, les projets les plus souvent évoqués d'après les services de renseignement, ce sont des blocages de dépôts pétroliers, d'aéroports, de routes, de facultés, voire même de plateformes Amazon. Des actions portée par la mouvance d'ultra-gauche, selon cette note confidentielle. Ce mouvement du 10 septembre, écrivent les policiers, a clairement basculé vers l'extrême-gauche. Plus d'une centaine de réunions de préparation ont été recensées ces derniers jours à travers une soixantaine de départements, à la fois dans des grandes villes et des petits villages. En Bretagne, par exemple, 2500 personnes se sont mobilisées le week-end dernier pour réfléchir aux actions à mener. Toutefois, des incertitudes demeurent sur le degré d'implication de la société civile dans ce mouvement, constate le renseignement territorial. Un mouvement, je cite, « sans leader et sans organisation structurelle efficace », ce qui rend les actions à venir imprévisibles. Les salariés, par exemple, semblent privilégier pour l'instant la journée de mobilisation intersyndicale du 18 septembre, notamment selon les services de renseignement. parce qu'ils craignent des actions violentes mercredi prochain.
Le Conseil des ministres a dissous ce matin une école de formation d'imams basée dans la Nièvre, à l'Institut européen des sciences humaines. Selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, cette école fait la promotion d'un islam radical. La lutte contre l'entrisme de la mouvance frériste se poursuit, affirme Bruno Retailleau dans une référence aux frères musulmans. Le tribunal judiciaire de Paris vient de condamner l'État pour faute lourde dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, cette fillette de 9 ans victime de Michel Fourniret qui avait disparu il y a plus de 20 ans. Le manque de moyens humains et les dysfonctionnements dans ces investigations constituent une faute lourde et engagent à ce titre la responsabilité de l'État, précise le tribunal dans son jugement. Israël affirme préparer une offensive d'envergure pour s'emparer de la ville de Gaza, dernier bastion du Hamas, selon l'armée israélienne. L'État hébreu qui veut évacuer le million d'habitants menacés par les combats. Un haut responsable militaire israélien évoque la création d'une zone humanitaire pour accueillir les déplacés. En Israël, de nouvelles manifestations sont prévues ce soir pour rappeler un cessez-le-feu et la libération des otages. On retrouve à Jérusalem Thibault Lefèvre. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Thibault, des manifestants qui observent les divisions grandissantes au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Oui, et le ton a changé car l'exécutif est divisé sur la stratégie de guerre. Pour schématiser, vous avez désormais Benjamin Netanyahou et son extrême droite la plus radicale qui veut envoyer ses troupes dans la ville de Gaza. Et de l'autre côté, le chef d'état-major Eyal Zamir qui défend lui un accord avec le Hamas. Lee Sigal est le frère de Kiss, un otage libéré il y a 7 mois.
Ils savent tous que ça n'est pas le bon chemin. J'espère qu'il y a vraiment des tensions au sein du cabinet et qu'elles vont provoquer un changement. L'occupation de la ville de Gaza est une catastrophe pour Israël. On espère que notre gouvernement va voir la lumière.
Il y a dans la manifestation les proches des otages, mais aussi les familles des militaires. Yael est la maman d'un soldat. Son fils est une nouvelle fois mobilisé dans une guerre qu'elle ne comprend plus.
La guerre devient politique, ils veulent réoccuper Gaza. C'est pourquoi nos fils sont encore là-bas. Ils doivent se battre et ce n'est ni pour sauver les otages, ni pour protéger Israël. C'est désormais une guerre qui n'est pas nécessaire.
La colère est depuis ce matin bien plus intense. Des poubelles ont brûlé et des manifestants ont occupé plusieurs heures le toit de la Bibliothèque nationale.
Voilà pour ce reportage de Thibault Lefèvre, correspondant de France Culture à Jérusalem. Volodymyr Zelensky est attendu à Paris ce soir. Demain, le président ukrainien participera à une réunion de la coalition des volontaires. Ces pays, comme la France ou le Royaume-Uni, prêts à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. Vladimir Poutine s'est à nouveau montré menaçant aujourd'hui pour le maître du Kremlin. La Russie atteindra ses objectifs militairement si les négociations avec l'Ukraine échouent. Le gouvernement britannique a choisi ce mercredi 3 septembre, au jour de la rentrée scolaire en Angleterre, pour annoncer l'interdiction de la vente des boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Il faut savoir qu'un tiers des adolescents anglais de 13 à 16 ans consomment chaque semaine ces boissons type Red Bull, avec des conséquences néfastes pour leur santé et leur capacité d'apprentissage. On retrouve à Londres Gaël Joly. Gaël, les enseignants aussi s'inquiètent de l'addiction de leurs élèves à ces boissons.
Oui, certaines de ces boissons très populaires en Angleterre contiennent à elles seules l'équivalent de 3 ou 4 expressos et de 20 cuillères à café de sucre. Les élèves n'arrivent plus à rester assis sur leur chaise, à se concentrer en classe. Ils ont des troubles du sommeil. Alors les syndicats d'enseignants ont salué cette interdiction ce matin. Dans une étude menée l'an dernier, 70% des profs se disaient inquiets de l'abus de ces boissons. Des boissons qui favorisent aussi l'obésité et les caries, ont dénoncé les médecins et les dentistes. Le gouvernement a promis une loi au plus vite, le ministre de la Santé West Reading sur la BBC ce matin.
On peut voir l'impact sur la santé, la concentration et l'apprentissage. Et c'est pourquoi nous agissons. Nous avons promis de voter cette loi d'ici la fin de notre mandat. Mais en pratique, cela interviendra beaucoup plus tôt.
Cette nouvelle loi, elle vise à interdire la vente de ces boissons dans les boutiques, y compris en ligne, les restaurants, les cafés et les distributeurs automatiques. Le gouvernement a lancé une consultation de 12 semaines. Les chaînes de supermarchés, elles ont déjà interdit ces boissons aux plus jeunes. Andrew Pied, le directeur du syndicat des chaînes de supermarchés, supermarchés ici en Angleterre.
Nous soutenons l'action du gouvernement. Tous les grands distributeurs alimentaires ont mis en place une interdiction volontaire. Pour pouvoir appliquer cette mesure, nous devons tous suivre les actions responsables des grands supermarchés.
Une interdiction qu'envisagent également l'Irlande du Nord, l'Écosse et le Pays de Galles.
Gaëlle Joly, correspondante de France Culture au Royaume-Uni. Le temps demain restera très perturbé sur la plupart des régions. Il pleuvra beaucoup sur le sud-est de la vallée du Rhône à la Méditerranée. Un ciel le plus variable sur le nord-ouest. Demain matin, les températures iront de 12 à 18 degrés. Les maximales sont en baisse entre 19 et 31 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. À la technique, il y avait Nicolas Leroulet.